Radio Kapi. Le journal Noël Aluzi Tukabambi à la présentation.
La conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et l'église du Christ au Congo SCC poursuivent des consultations auprès des acteurs sociopolitiques de la RDC pour tenter de trouver une issue à la crise actuelle. D'où la rencontre hier à Goma au Nord Kivu entre une délégation des membres de ces deux confessions religieuses et le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC. À la fin de cette édition d'information, nous recevrons comme invité du journal le secrétaire général de la Sanko, Monseigneur Donatien Cholet. Le gouvernement de la RDC recommande dans un communiqué la convocation urgente de la réunion des chefs d'état-major général décidée lors du sommet conjoint SADC-EAC en Tanzanie en vue de mettre en place le mécanisme de suivi et de vérification. C'est après le constat de violation par le Rwanda et le 1-23 du cessez-le-feu décidé par ce sommet. Une maladie inconnue a tué plusieurs personnes en une semaine dans le territoire de Bassankoussou, province de l'Équateur. L'alerte est donnée par le sénateur Boké Tchoubo-Fili Jean-Paul. Il appelle le gouvernement provincial et national à y déployer une équipe technique médicale pour identifier la maladie et apporter une assistance humanitaire aux populations locales déplacées et meurtries. Bonjour à tous et bienvenue à ce journal. Une délégation composée des membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko et de l'Église du Christ au Congo SCC a rencontré hier mercredi à Goma en Nord Kivu le coordonnateur de l'Alliance Fleuve Congo AFC, Corneille Nanga, et d'autres dirigeants du groupe M23. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des consultations menées par ces deux confessions religieuses auprès des acteurs sociopolitiques du pays pour tenter de trouver une issue à la crise actuelle. D'après le secrétaire général de la Sanko, les représentants religieux ont présenté leur plan de sortie de crise intitulé « Pacte social pour la paix et le vivre ensemble en RDC » visant à renforcer la cohésion nationale. On écoute Monseigneur Donatien Cholet dans cet extrait que nous propose Grâce à Mzati.
Nous avons pensé que la FCM 23 a quand même une grande contribution à apporter dans cette dynamique de la construction de la paix, parce que pour les deux églises, l'année 2025, c'est l'année de la paix. Notre priorité, c'est la paix. Et voilà pourquoi nous sommes venus les exhorter, aussi les écouter. Et en même temps aussi, à travers Monseigneur Willy, écouter la population AFC bar M23 représentée par Corneille Nanga nous a expliqué les raisons de leur agir en les écoutant. Ça nous a motivé davantage de travailler dans le sens de ces pactes-là. On a compris qu'il y a beaucoup de choses qui pourront être réglées si les Congolais se mettaient autour d'une table. On a eu des réponses assez rassurantes que nous ne sommes pas dans la dynamique de la balkanisation, nous ne sommes pas dans la dynamique de l'exploitation illicite. Et c'était aussi l'occasion de faire des plaidoyers pour l'ouverture de l'aéroport, du port, mais aussi pour obtenir l'arrêt de la guerre le plus tôt possible, parce que nous restons convaincus que la solution à cette crise n'est pas militaire.
Je vous rappelle que le chef de l'État a rencontré une délégation des confessions religieuses mardi à Kinshasa, toujours dans le but de mettre fin à la crise qui secoue l'Est de la RDC. Félix Tshisekedi a appelé toutes les confessions religieuses à se mettre ensemble pour des initiatives de la paix et de la cohésion nationale. Cette délégation a été composée notamment de l'église de réveil, l'église kimbanguiste, des musulmans et autres. Toujours pour amener la paix à RDC, les femmes membres de la plateforme interconfessionnelle Dynamique Femmes pour la Paix encourage le gouvernement congolais à négocier pour épargner les vies humaines. Elles ont exprimé leur profonde inquiétude mardi à Kindu face à la situation sécuritaire qui sévit actuellement à l'est de la RDC, notamment dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. La responsable de la dynamique interconfessionnelle Femmes pour la Paix, Abedi Luzinga Edwino, est au micro de Florence Kizalunga.
L'insécurité se manifeste par la guerre aggravée, par la prise de la ville de Goma depuis le 31 janvier dernier, mettant ainsi la population déjà affaiblie. En effet, ce combat entre la FARDC et AFC-M23 avec ses alliés ont causé des pertes en vies humaines, en majorité les femmes et les enfants, en plus des violations des droits humains exacerbées par les viols viols, les violences basées sur le genre, les pillages créant un climat de peur et d'incertitude caractérisé par les déplacements massifs de la population. En union avec d'autres femmes, condamnons avec véhémence cette énième agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda sous le supplétif de AFC M23. Fustigeons le silence coupable de la communauté internationale face au massacre de la population congolaise depuis plus de 30 ans et sans aucune sanction contre le Rwanda.
De son côté, le gouvernement de la RDC condamne et attire l'attention de la communauté internationale sur la violation par le Rwanda et ses supplétifs du M23 du cessez-le-feu décidé par le sommet conjoint des chefs d'État et de gouvernement de la communauté d'Afrique de l'Est, EAC, et de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, tenu le 8 février à Dar es Salaam en Tanzanie, sommet consacré à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Dans un communiqué de presse rendu public ce mercredi, le gouvernement congolais recommande la convocation urgente de la réunion des chefs d'état-major général décidée lors du sommet conjoint en vue de mettre en place le mécanisme de suivi et de vérification. Des précisions dans cet élément de Kassam Zati, rendu par Luévin Mbwinga.
Le gouvernement congolais rapporte que dans la matinée du 9 février 2025, soit moins de 24 heures après le sommet, les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23 ont bombardé des positions des forces armées de la RDC dans la localité de Ndolouma, chefferie de Bamaté, territoire de Lubero, dans la province du Nord Kivu. Ces attaques ont fait un bilan de 14 morts, dont des civils et plusieurs blessés, affirme-t-il. Dans le même territoire, des positions tenues par les FARDC ont encore une fois été attaquées le 11 février 2025 dans les localités de Kanyambi, de Ndolama et de Tchoulo, dans le territoire de Calais, dans la province du Sud Kivu. Plusieurs positions des FARDC dans les localités d'Ioussi et de Mounanira sont attaqués depuis le matin du 11 février 2025 par les forces armées rwandaises et leurs supplétifs du M23. Le gouvernement indique que l'ennemi a été repoussé, même s'il continue de recevoir des renforts. Pour décourager cette attitude qu'il qualifie de récidiviste, le gouvernement de la RDC recommande une condamnation ferme et unanime de cette violation par la SADC et l'EAC, assortie de sanctions, mais aussi la convocation d'une réunion d'urgence des instances de la SADC et de l'EAC pour évaluer la situation et tirer les conséquences de ce nouvel acte d'agression.
Procès RDC Rwanda à la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples à Arusha en Tanzanie, deuxième jour ce jeudi. Le débat sur la recevabilité de la cause RDC Rwanda va donc se poursuivre aujourd'hui devant cette cour. Le vice-président de cette juridiction africaine de la Tanzanie a levé cette option après avoir suivi les plaidoiries des deux parties en conflit. Explication de Blaise Ndongala Mayanda.
Dans ce procès, la RDC accuse le Rwanda d'avoir commis diverses exactions dans sa partie orientale, parmi lesquelles les tueries, viols, vols, enlèvements, incendies des maisons et autres. Premier à prendre la parole devant la composition, l'avocat conseiller du Rwanda a demandé à la cour de rejeter clairement la requête de la RDC qui, selon lui, viole l'acte constitutif de l'Union africaine. Il a cependant noté que cette requête ne relève pas non plus de la compétence territoriale de la cour des séances.
Cette requête ne relève pas de la compétence matérielle de la cour de séance.
De leur côté, les avocats conseillers de la RDC ont balayé du revers de la main l'argumentaire étayé par l'État défenseur. Pour l'un d'eux, Maître Marcel Wetchokonda, les Rwandais fait du sophisme, ignorant que la compétence de cette cour s'élargit au territoire de tout État membre de l'Union africaine.
La cour déclarera évidemment compétente dans la mesure où le Rwanda a commis et continue de commettre des violations des droits de l'homme sur les territoires de la RDC, qui est un État parti au protocole.
Hormis le vice-ministre de la Justice et contentieux international, de nombreuses autres autorités congolaises prennent part à ces procès à Arusha, dont les coordonnateurs du mécanisme national de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba, professeur Tumba Luaba.
Sur le terrain au Nord Kivu, après l'occupation de Goma par le M23, plusieurs familles des militaires, autrefois logées au camp militaire de Katindo, ont fui ce camp pour trouver refuge dans des écoles, des églises et des maisons autour du camp. Composée en majorité des femmes et des enfants, une partie de ces familles sont sans nouvelles de leurs maris et pères qui servaient le pays sous le drapeau. Dans ces écoles, elles manquent de tout. Nourriture, eau potable, soins médicaux et abris décents. La situation est encore plus difficile pour celles qui sont originaires
dans d'autres provinces de la RDC et qui souhaitent rentrer chez elles, mais n'en ont pas les moyens. Leur témoignage dans ce reportage que nous propose Rosalie Zawadi.
À 52 ans, cette mère de cet enfant, déjà éprouvée par les deuils de son mari militaire, a dû quitter précipitamment les camps de Katindo avec ses enfants après la chute de la ville. Son sort est incertain, comme celui de nombreuses autres familles des militaires.
Mon mari est mort au front à Beni. Depuis sa disparition, je ne vivais qu'au camp Katindo. Le peu d'argent de solde que je recevais en son nom me permettait de prendre soin des enfants. Après l'attaque de la ville, nous avons fui le camp pour vivre dans les églises. Ici, la situation est aussi compliqué. Ceux d'entre nous qui se sont réfugiés dans les maisons d'autrui sont chassés. Je demanderai à toute personne de bonne volonté de m'aider à rentrer à Kabizo, mon village d'origine.
Près de la même église, une femme plus jeune qui décrit, elle, les conditions dans lesquelles vivent les familles des militaires depuis qu'elles ont quitté les camps Katindo.
Nous vivons actuellement dans des conditions difficiles dans une église. Nous n'avons pas de nourriture, nos enfants sont exposés à des maladies. Les rebelles ont pris tous nos biens, ce qui nous rend encore plus vulnérables. Nous ne savons pas quand cette guerre prendra fin. Tout ce que nous voulons, c'est voir ces rebelles partir pour que nous puissions regagner nos domiciles.
À côté de l'assistance en besoin en première nécessité, plusieurs femmes demandent les moyens de rentrer dans leur province d'origine.
Le sénateur Boketchoubofili Jean-Paul alerte sur l'apparition d'une maladie encore inconnue dans le territoire de Bassankoussou, dans la province de l'Équateur. Dans un communiqué de presse publié hier mercredi à Kinshasa, l'élu de l'Équateur affirme que cette maladie a fait des dizaines de morts en moins d'une semaine et des déplacements massifs des communautés touchées. Ainsi, en vue de sauver des vies humaines, le sénateur appelle-t-il les gouvernements national et provincial de toute urgence à déployer une équipe technique médicale pour identifier l'origine de la maladie et ainsi apporter une assistance humanitaire aux populations locales déplacées et meurtries. Plus de détails avec Grace Amzati.
Dans son communiqué, le sénateur Boketchoubofili Jean-Paul précise que c'est dans la localité de Bomati, située à 25 km de la ville de Bassankoussou, que se manifeste cette maladie d'origine inconnue, caractérisée par des fièvres hémorragiques, des maux de tête, des douleurs articulaires généralisées ou lombalgie. Les victimes succombent au bout de 24 heures, indique-t-il. À ce jour, on dénombre plus de 36 cas de décès notifiés par la zone de santé de Bassankoussou en une semaine, soit la période allant du 3 au 9 février en cours, et plus de 50 morts depuis l'apparition de la maladie quelques semaines avant dans cette localité qui ne compte qu'environ 5000 habitants, rapporte le sénateur Boketchoubofili. Le communiqué ajoute que plus de 2000 personnes ont fui leur village pour trouver refuge dans la ville de Bassankoussou et dans les villages environnants. Selon cet élu de l'Équateur, il s'agit d'un drame sanitaire et humanitaire grave qui dépasse la capacité des autorités administratives locales et du système de santé qui sont débordées et dépourvues des moyens pour y faire face. Nous n'avons pas encore réussi à joindre le médecin-chef des zones de santé de Bassankoussou ainsi que les autorités locales à ce sujet.
Qu'est-ce qui se passe entre le syndicat des enseignants du Congo territoire de Moba et la banque TMB dans la province du Tanganyika? Ce syndicat accuse la banque TMB de détournement de plus de 77 millions de francs congolais en l'espace de 4 mois. Dans une déclaration parvenue hier à Radio Okapi, le CIECO annonce que depuis octobre dernier, la TMB et ses agents payeurs à Moba prélèvent mensuellement un montant sur les salaires de chaque enseignant. En réaction, une source proche de la TMB à Kalemi rejette ces allégations. Depuis Kalemi, Paula Munanga.
Le secrétaire permanent de ce syndicat souligne que de novembre 2024 à janvier 2025, la TMB a retiré le montant de 5 000 francs congolais sur les salaires de chaque enseignant. À leur tour, les agents payeurs de cette banque ont retiré aussi entre 3 000 et 5 000 francs congolais. Ce qui fait que sur chaque salaire d'un enseignant, cette banque retient entre 8 000 et 10 000 francs congolais chaque mois, indique Placide Muyumbangoy, secrétaire permanent du CIECO Moba. D'après lui, la somme cumulée en cas mois est exorbitante.
Il se révèle que seule la TMB a pris 35 411 000 francs congolais d'octobre en janvier de cette année, de même que 24 996 000 francs congolais à 41 660 000 francs congolais qui restent dans les mains des agents payeurs de la banque TMB.
Contacté par Radio Okapi, une source proche de la TMB à Kalemi annonce que la banque n'a soutiré aucun montant sur les salaires des enseignants de Moba. Elle précise que la TMB retient uniquement 2,5 dollars américains sur les salaires de chaque enseignant comme frais de tenue de compte. Kalemi, Paul Munanga, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Le président du Liberia, Joseph Boakai, a suspendu plus de 450 fonctionnaires qui n'ont pas déclaré leur patrimoine à temps. Un total de 457 fonctionnaires nommés par le gouvernement, dont la ministre déléguée au budget ainsi que des ambassadeurs, ont été épinglés par l'agence anticorruption du Liberia, LACC, pour n'avoir pas déclaré leur patrimoine avant le mois de novembre, comme le demande le code de conduite des fonctionnaires du pays. Ces derniers ont été suspendus pour une période d'un mois sans salaire ou jusqu'à ce qu'ils remettent leur déclaration, a indiqué la présidence libérienne. M. Boakai, élu en novembre 2023, s'était engagé à lutter contre la corruption réputée endémique dans son pays.
L'invité.
Comme annoncé au sommaire, notre invité est le secrétaire général de la Conférence épiscopale nationale du Congo Sanko. Dans une interview exclusive accordée à Radio Kapi, Mgr Donatien Chele nous parle de la rencontre hier à Goma entre une délégation composée des membres de la Sanko et de l'ECC et ceux de la rébellion AFC M23. Il s'entretient avec Grâce Hamzati.
Mgr Donatien Chele, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de rencontrer Corné Nanga, coordonnateur de l'AFC, ainsi que certains dirigeants du groupe Rebelle M23. Qu'est-ce que vous leur avez dit?
Eh bien, nous poursuivons la tournée que nous avons commencée à Kinshasa pour sensibiliser tous les acteurs sociopolitiques qui comptent dans la résolution de la crise, dans la construction de la paix durable, pour leur expliquer les motivations, ce que nous voulons, la méthodologie, le projet de pacte social en faveur de la paix et du bien vivre ensemble. L'objectif, c'est de convaincre que la lutte armée n'est pas la solution, mais nous venons avec une proposition qui peut contribuer à la construction de la paix durable, donc le pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble.
Et quelle était la réaction du groupe Rebelle?
Bon, il a dit être ouvert au dialogue. Il a promis de nous envoyer dans le meilleur cahier des charges. À l'issue de nos échanges, nous sommes renforcés dans notre conviction que par rapport à toutes ces revendications que certains peuvent considérer des prétextes, il y a lieu de s'asseoir pour résoudre tout ça pacifiquement.
Et par rapport à la cessation des hostilités, la rébellion accepte finalement de ne plus continuer la violence?
Bon, nous avons lancé l'appel. Vous savez, une telle décision ne se prend pas du jour au lendemain. Mais nous avons parlé avec insistance. Et au moins, il est d'accord que si on trouve la solution à leurs revendications le plus tôt possible, la lutte armée n'aurait plus de sens. Voilà pourquoi nous sommes excités à continuer à convaincre davantage pour mettre fin à la guerre.
Si nous comprenons bien, Corné Nanga et son groupe AFC acceptent de discuter avec Kinshasa, de rencontrer le chef de l'État autour d'une table.
On n'a pas parlé d'une rencontre entre M23 et le chef de l'État. Nous avons expliqué notre dynamique que vous connaissez bien. Nous voulons leur implication dans la dynamique et ils se disent ouverts. Alors on attend le cahier des charges et les conditions qu'ils vont mettre, nous ne savons pas encore.
Et entre-temps, la situation humanitaire se dégrade dans la ville de Goma. Est-ce que vous n'avez pas touché ces points au cours de vos échanges?
Bien sûr que oui, on était avec l'archevêque pour essayer de comprendre. Vous savez, il y a aussi beaucoup de choses qui se racontent dans les réseaux sociaux qui ne sont pas vraies du tout. Je ne suis pas là pour faire dire exactement, mais nous avons été sensibles à cela. Nous avons évoqué cela. Nous avons échangé sur l'aspect humanitaire. On n'a rien négligé. Nous avons partagé avec lui les préoccupations des Congolais qui disent non à la balkanisation par rapport aux critiques de la justification de la guerre par l'exploitation et des minéraux. Donc, nous avons parlé en pasteur et à toute responsabilité. Et il nous a réussi aussi pas en guerrier. Vous aurez constaté qu'il n'avait pas de barbe, il n'avait pas la tenue militaire.
Entre-temps, ici à Kinshasa, certains acteurs et formations politiques rejettent votre démarche, notamment l'UDPS, le parti présidentiel. Qu'en dites-vous?
Bon, je crois que, parlant de l'UDPS, moi je considère ça comme, je l'ai dit tout à l'heure, une imbroglio. Parce que l'autorité morale reste le président de la République qui nous a réussi et tout le monde sait que le président a encouragé l'initiative qu'il a jugée de louable. Il a dit qu'il accueillait ça avec respect alors qu'il y ait un son de cloche contraire. tout passant responsable, mais nous allons de l'avant parce que la République n'appartient pas à un groupe de gens, mais chacun est libre de s'exprimer. C'est la foi qui nous guide et nous croyons que dans un bref délai, on pourra déjà recevoir les avis des uns et des autres pour évoluer.
Avez-vous un message à la population congolaise tout comme aux acteurs sociopolitiques?
À ceux qui ne comprennent pas encore la dynamique de la CENCO et l'ECC, qui sachent qu'ils ont affaire aux pasteurs qui aiment ce pays, aux pasteurs qui s'engagent pour la paix et qui sont ici à Goma dans une mission strictement pastorale. Évidemment qu'il y a des accointances politiques et sur le plan sécuritaire. Nous ne décidons rien. Nous ne disons même pas que nous voulons être médiateurs. Nous sommes là pour défendre la cause du peuple congolais qui a besoin de la paix durable pour bien vivre et aussi bien vivre avec les autres.
Monseigneur Donatien Cholet, je vous remercie.
Merci.
Merci à vous tous aussi qui avez bien voulu suivre ce journal. À la présentation, Noëlla Luzitu Kabambi, un journal mis en onde par Pierre Diassinois. Le tout sous la coordination et la supervision de Lievin Mbwinga. Je vous laisse suivre les autres programmes de la tranche matin de Radio Okapi, le média de la paix.